Orient Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour. Ville étrange et multiple, à l'identité insaisissable, des routes se dérobent autant qu'elles se révèlent dans une exposition mise sur pied par l'écrivain et photographe Sabil Roussoub. Installée à l'Institut des Cultures Arabes à Paris, C'est Beyrouth rassemble des vidéastes, des journalistes, des photographes et des plasticiens libanais, mais aussi étrangers, de générations différentes, dont le point commun est de placer l'individu au centre de leurs travaux. Cela nous offre un regard inédit sur la capitale libanaise, que commentent les artistes eux-mêmes. L'exposition est à voir jusqu'au 28 juillet. Vous pourrez réécouter cette émission sur notre site www.rfi.fr ou la podcaster sur notre appli Pure Radio. Le premier artiste à se présenter devant nous est Vianney Lecair. C'est l'une de ses photos, des baigneurs qui bronzent sur la plage, qui a été choisie comme emblème de l'exposition. Puis nous entendrons Cha Gonzalez, qui a passé son enfance au Liban et qui tente de faire le lien entre la fête et la guerre. Myriam Boulos, elle, vit et travaille à Beyrouth. Elle s'est intéressée au personnel de maisons étrangers et notamment aux femmes pendant leur court temps de repos le dimanche. Enfin, Mohamed Abdouni saisit l'intimité d'une mère et de son fils transgenre, regard révélateur des minorités bien présentes au Liban, mais oubliées. On démarre donc avec Vianney Lecair. Moteur, ça tourne. Bonjour Vianney Lecair.
Bonjour.
Vous êtes artiste, vous êtes installé à Londres, vous êtes français, oui. Et vous vous intéressez au Liban et notamment à Beyrouth, et vous participez à cette exposition à l'Institut des Cultures d'Islam, C'est Beyrouth. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans cette ville de Beyrouth ?
En fait, c'est une ville que j'ai découvert un peu par hasard pour un autre sujet, c'est-à-dire que je couvrais la crise des réfugiés syriens pour une ONG. Et par hasard, par chance, en me promenant un matin, j'ai découvert ces bronzeurs, ces composés exclusivement d'hommes, et qui avaient la particularité de prier en maillot de bain. Et donc, c'était quelque chose que j'avais jamais eu l'occasion de voir au Moyen-Orient, parce qu'il y a quand même un rapport au corps et à la nudité qui est un peu plus pudique dans l'islam. C'est quelque chose qui m'a tout de suite attiré mon regard, et j'ai commencé à photographier ces gens-là. Donc le matin, en ayant mon temps libre, et l'après-midi, j'enchaînais malheureusement avec les réfugiés syriens. C'était une expérience assez schizophrène, mais qui en même temps en elle-même est aussi représentative du pays, quoi. Le Liban, un pays assez schizophrène aussi.
Alors vous les avez photographiés, mais est-ce que vous les avez abordés aussi ?
Ah oui, bien sûr. C'est de toute façon, l'un pouvait pas se faire sans l'autre. Il fallait être accepté. Il y avait une barrière à franchir, littéralement. Donc j'ai sauté par-dessus la barrière et j'ai été accueilli par un homme. C'est le personnage principal de la série qui s'appelle Abou Kador et qui était le chef de la plage, entre guillemets, qui en gros m'a laissé quartier libre pour photographier lui et ses comparses, quoi.
Alors justement, que font ces bronzés ?
Ils passent leur temps à se bronzer, à se dorer la pilule, vraiment littéralement. Moi, je les ai rencontrés en milieu de l'hiver, hein, c'était fin février, donc il faisait quand même assez beau. Abou Kador dit que pendant les 25 dernières années, il a été tous les jours à la plage, par vent, par neige et par guerre aussi, puisque il se rappelait voir les avions de Tsahal passer au-dessus de sa tête pour bombarder Beyrouth il y a encore pas très longtemps. Ce qui me frappait le plus dans ce projet, dans ces gens-là en général, c'est de voir des gens heureux, surtout Abou Kador. Je crois que il m'a rarement été donné de rencontrer quelqu'un qui est vraiment heureux, un bonheur simple, c'est-à-dire il a son soleil, ses amis, et c'est tout ce qui suffit. Pardon.
Est-ce qu'il y avait un caractère religieux dans leur pratique ?
Ah oui, puisque ils observaient la prière. Donc ça, c'était le côté assez frappant. La prière en maillot de bain, d'ailleurs, qui est représentée dans mes photos beaucoup. Je pense que la plupart étaient musulmans, parce qu'il y a aussi des chrétiens évidemment au Liban, mais c'était quand même une communauté de musulmans, alors à des degrés de pratique différents. Certains n'observaient pas la prière, alors que d'autres vraiment rigoureusement 5 fois par jour priaient, quoi.
Qu'est-ce que ça révèle de Beyrouth, cette situation, ces bronzés ?
Alors Beyrouth, c'est une ville que je connais pour l'avoir visité, mais j'ai jamais vécu là-bas, donc je m'aventurerai pas à trouver des significations trop profondes. Mais arrivé à Beyrouth pour la première fois, il y a encore, je réutilise le mot schizophrène, c'est-à-dire c'est une ville où les impacts de balles sont encore visuellement présents, et à l'inverse où on peut passer des soirées dans des clubs exclusifs à $1000 l'entrée, etc. Donc c'est encore une fois, c'est une ville faite d'excès et probablement d'antipodes. Et là encore une fois, quelque chose de surprenant, quoi, qui m'a jamais été encore une fois donné de voir ailleurs au Moyen-Orient ou dans un pays musulman en règle générale, quoi.
Alors l'une de vos photos a été choisi pour incarner cette exposition, c'est Beyrouth. Pourquoi, selon vous, cette photo-là particulièrement ?
Faut sûrement leur poser la question à eux. Je pense qu'ils ont aimé le fait qu'il y ait cet élément religieux avec Aboukador qui prie à droite de l'image. Et puis un autre homme qui visiblement n'en a absolument rien à cirer et qui en fait s'épile l'épaule, en fait, pour être exactement précis. Donc c'est vrai que là encore on retrouve cette dichotomie, ces antipodes, ces extrêmes, probablement qui représentent assez bien le Beyrouth en tant que ville.
Vianney Lecaire, merci.
Merci.
Chah Gonzalez, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes artiste et vous exposez ici à l'Institut des Cultures de l'Islam à Paris, à la Goutte d'Or, dans cette exposition « C'est Beyrouth ». Alors, vous êtes française et vous vivez à Paris. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans Beyrouth au point d'aller y travailler ?
Alors, parce que j'y ai grandi, en fait, j'ai passé toute mon adolescence là-bas, toutes mes années de collège. Et du coup, pendant longtemps, je me suis sentie plus libanaise que française, on va dire. Et j'y suis retournée en 2010 pendant 6 mois pour faire mon diplôme des arts décoratifs. Et voilà, et ensuite j'y suis retournée régulièrement. Donc c'est pas un intérêt que j'ai fabriqué à l'âge adulte.
Alors, dans cette exposition, vous vous intéressez à la guerre au Liban. Pourquoi précisément et comment avez-vous traité ce thème ?
Parce que la guerre là-bas, c'est quelque chose qui est omniprésent et même si les gens font la fête et vivent une vie normale, parce qu'il y a une forme de résilience qui est très 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 forte là-bas, on voit des stigmates quand même partout. Et donc dans mon travail, je veux pas en parler de manière directe ou même de montrer les cicatrices ou voilà les traces visibles de la guerre, mais je me suis plus concentrée justement sur les fêtes pour montrer justement cet exutoire ou ce que pourrait représenter la fête dans un pays qui a connu la guerre.
Votre série s'appelle « Abandon ». Finalement, on s'abandonne dans les excès plutôt que de faire face, c'est cela ?
Oui, oui, oui. Mais que ça soit dans des pays qui ont connu la guerre comme le Liban, comme en France, je pense que c'est vraiment un espace, une sorte de parenthèse où on peut se délester de toutes les pressions, d'une angoisse de mort, de frustration, de tout ça. Après, c'est vrai qu'il y a peut-être une urgence dans les fêtes des pays qui ont connu la guerre, qui est plus présente. C'est pas ce que j'ai observé en y retournant là, peut-être parce que ça fait trop longtemps que la guerre est finie. Et donc c'est revenu à une sorte de fête un peu plus normée, proche des fêtes à Ibiza, un peu dans l'apparence et loin d'un sentiment de besoin d'exutoire en fait.
Justement, ce besoin d'exutoire, il est surtout emblématique à Beyrouth, où il se retrouve aussi dans d'autres villes et dans d'autres régions du Liban.
Alors, c'est une bonne question. Je ne suis pas allée dans les autres villes. Dans ma spécialité, qui est la fête techno, à moins que je me trompe, ça n'existe pas dans les autres villes. Il n'y a pas le public ni les infrastructures, je pense, pour accueillir ce genre d'événement. Après, il y a d'autres fêtes avec de la musique orientale. Et non, voilà, c'est pour ça que je me suis concentrée sur Beyrouth, parce qu'il y a quand même cette sorte de pont entre l'Orient et l'Occident, des DJ qui viennent d'Occident, et même les DJ libanais eux-mêmes qui ont voyagé, et que ceux qui font la fête en France voient les photos de fêtes à Beyrouth et puissent se projeter et se dire qu'on est tous un peu pareil, quoi.
De ce point de vue-là, est-ce que vous diriez que Beyrouth est spécial ?
Ben, Beyrouth est spécial, oui, mais on va dire, comme tous les pays, Beyrouth, oui, c'est quand même assez complexe, on va dire. C'est difficile de l'aborder, en tout cas de résumer cette ville, et c'est pour ça que cette exposition, je pense, montre toutes les facettes de cette ville et de ce qu'elle peut représenter.
Dans cette région, y a-t-il une autre ville, un autre pays qui vous tenterait pour faire un autre sujet de reportage, toujours dans ce même domaine de la fête excessive ?
Oui, en fait, moi j'aimerais énormément déjà continuer les photos que j'avais commencées à Kiev. C'est pas tout à fait la même région, mais en tout cas, j'ai eu un bon aperçu début 2018 et j'aimerais aller à Istanbul, à Téhéran.
Chah Gonzalez, merci.
Merci à vous.
Orient Hebdo sur RFI.
Myriam Boulos, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes artiste, vous êtes libanaise et vous travaillez notamment sur Beyrouth, en particulier sur le personnel de maison, enfin toutes les personnes qui sont un peu délaissées au Liban. C'est une population qui est assez importante.
Certainement. En fait, c'est une population qui est aussi importante que toutes les autres populations. Mais la différence, c'est qu'on voit leur place dans la ville et dans le pays uniquement les dimanches, parce que tout le reste de la semaine, elles sont en quelque sorte cachées, vu qu'elles n'existent que par rapport à leur fonction pendant le reste de la semaine.
Importante, je voulais dire nombreuse. Effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de personnel de maison. Ces gens viennent de quel pays à l'extérieur du Liban, bien entendu, puisque ce sont souvent des non-libanais?
Elles viennent de plusieurs pays, en fait. Elles viennent, par exemple, du Sri Lanka, des Philippines, de la Malaisie, d'Éthiopie, de plein de pays.
Alors justement, c'est une population qui est en difficulté. Il y a un certain nombre de lois qui passent parfois au Parlement libanais pour essayer d'améliorer leur sort. Vous, qu'est-ce qui vous a intéressé dans cette population particulière?
En fait, j'ai fait ce projet en 2015, quand j'avais encore 23 ans. J'ai commencé le projet avec une fascination pour ces femmes que je ne comprenais pas particulièrement. Et c'est en faisant les photos que j'ai réalisé que cette fascination était pour le combat croisé qu'elle mène en tant que femme au Liban. C'est un combat social et politique et que je me retrouvais carrément dans ce combat. En fait, dans tous mes projets, je cherche ma place en quelque sorte dans la ville et dans la société au Liban et je m'y identifiais. Voilà.
Mais pourquoi avoir choisi de vous intéresser à elles dans leur temps de repos ?
Parce que c'est le jour où on voit leur place dans la ville. C'est les dimanches qu'elles transforment complètement des coins de Beyrouth, comme pour y jouer leur propre pièce de théâtre. Et oui, j'avais pas envie de tomber dans le misérabilisme de leur place dans la ville pendant la semaine. J'avais envie de les montrer au contraire, en train de vivre en tant que personne et pas en tant qu'employée de maison ou bien femme de ménage. Donc en gros, c'est pour les montrer en tant que femme et pas femme de ménage.
C'est pour montrer que ce sont des êtres humains à part entière et non pas simplement des employés quasiment en esclavage.
Exactement, c'est ça.
Quel accueil avez-vous reçu de la part de ces personnes, essentiellement des femmes, je crois?
Oui, et j'aime pas vraiment séparer hommes et femmes généralement, mais être une femme au Liban, c'est vraiment jouer un rôle que la société nous impose. Du coup, c'est pour ça que je parle de combat, etc. Et sinon, par rapport à l'accueil que j'ai eu par rapport à ces femmes, elles ont réagi comme tout le monde devant une caméra. C'est-à-dire, au début, il y a un peu de méfiance, mais dès que les gens devant la caméra voient que je ne suis que bienveillante, ils se mettent à l'aise. Voilà.
Et comment est reçu votre travail lorsqu'il est visionné, notamment dans des expositions comme celle-ci à l'Institut des Cultures d'Islam?
Ce qui est triste dans le monde de l'art, je pense, c'est que les gens qui voient les photos sont des gens qui ont déjà ce genre d'idées en tête. Et le but, c'est d'accéder les gens qui voient ce sujet de façon soit complètement dans le misérabilisme, soit complètement dans le racisme au Liban, par exemple, une partie du Liban, par exemple. Du coup, mon but, c'est de casser ça et d'avoir un regard plus, moins objectifié du sujet.
Pour vous, est-ce que Beyrouth est une particularité? Est-ce que c'est une ville spéciale, notamment à travers le regard que vous avez porté sur ces femmes? Est-ce que c'est quelque chose qui vous a permis de découvrir un Beyrouth différent de ce que vous connaissiez?
Pour moi, Beyrouth, c'est la ville la plus spéciale au monde. En fait, c'est la ville dans laquelle j'ai grandi, dans laquelle j'ai toujours vécu. Et c'est une ville que je ne comprendrai jamais. Et en fait, tous mes projets photos tournent autour de ça. Se chercher dans la ville, à travers les autres, à travers son corps dans la ville, etc. C'est la ville qui fait que je fais des photos et quand je suis hors de Beyrouth, je ne fais même pas de photos. Donc
vous vous intéressez à Beyrouth, mais pas au reste du Liban?
Si, mais Beyrouth surtout, parce que j'ai grandi à côté de Beyrouth, pas vraiment dans Beyrouth, dans ma petite bulle, vu que Beyrouth est très fragmenté socialement et que chacun est dans sa petite bulle. Donc Beyrouth, c'est un peu comme tout un monde à découvrir pour moi. Et c'est là qu'il y a une concentration de la société, une représentation assez condensée de la société libanaise.
Selon vous, est-ce qu'il faut être libanaise, beyroutaine, pour bien comprendre cette ville, ou on peut être de l'extérieur?
Je pense qu'au final, on ne comprend jamais une ville et que chacun la voit à sa façon, donc il n'y a pas de bonne façon ou pas de comprendre une ville.
Mme Boulos, merci.
Merci à vous.
Bonjour Mohamed Abdouni.
Bonjour.
Vous exposez ici, dans cette exposition, c'est Beyrouth. Vous êtes Libanais, vous travaillez et vous vivez à Beyrouth. Qu'est-ce qui vous a intéressé, passionné dans le reportage que vous avez réalisé dans la communauté homosexuelle?
Ça fait un bon moment en fait que je travaille sur, pas vraiment cette série, mais plutôt un travail global, un travail de vie à propos des communautés marginalisées à Beyrouth et dans le monde arabe, et plus spécifiquement la communauté queer et LGBT. Cet intérêt, ça vient d'amour déjà. J'ai voulu représenter ma communauté, ma famille. En fait, il y a un très grand manque de documentation sur notre passé arabe et queer, ce qui est vraiment très triste parce qu'en fait, on entend des histoires des générations un peu plus âgées de toutes ces histoires qui ont eu lieu à Beyrouth, en Égypte, un peu partout dans le monde arabe. Et toutes ces histoires n'ont pas vraiment de documentation écrite, photographiée, filmée. Et ça a créé vraiment une frustration chez moi et chez beaucoup de jeunes dans la communauté. Ben, je dis jeune, je ne suis pas vraiment très jeune. Et c'est cette frustration, en fait, et cette volonté de vouloir documenter notre présent et essayer de documenter autant que possible le passé proche, autant que je puisse, pour les générations futures d'Arabes, queer, pour qu'ils puissent avoir une histoire, en fait, une référence sur leur propre culture. Donc c'est un peu ça.
Le Liban est un pays multiconfessionnel. On pourrait penser qu'il est aussi un pays où la liberté d'être est largement répandue, où chacun peut avoir donc sa religion, mais aussi son style de vie. Est-ce que c'est vraiment le cas?
Oui et non. Quand on parle du Liban et quand on parle de Beyrouth, c'est vraiment très différent. Quand on parle du Liban, il faut quand même inclure toutes les villes et les villages en dehors de Beyrouth, et c'est vraiment quelque chose de complètement différent. À Beyrouth, oui, c'est un peu plus libre, si on veut dire ça. On est un peu plus libre de vivre comme on le veut. C'est ça le problème, c'est qu'on parle souvent du Liban, et on parle des libertés qu'on a au Liban, mais en fait c'est Beyrouth. C'est Beyrouth qui est beaucoup plus libre en tant que ville arabe, mais pas vraiment le Liban en tant que pays.
Et dans l'intimité des familles, est-ce qu'il y a de la liberté? Vous êtes allé dans l'intimité des familles, vous avez pris des photos, on peut les voir dans cette exposition. Est-ce qu'il y a plus de liberté que dans l'espace public?
On peut pas vraiment généraliser, en fait. Ce projet spécifiquement, puisqu'on en a pas encore parlé, s'appelle Doris et Andrea. Ça tourne autour de Doris, son fils, fille, gender queer, donc non binaire, et l'amour qu'ils ont l'un envers l'autre, cet amour non conditionnel, unconditional love. Ceci n'existe pas vraiment dans toutes les familles, et en même temps, on peut pas dire que c'est la seule ou une des familles rares. Il faut vraiment rentrer dans l'intimité de chaque famille pour pouvoir vraiment savoir la réalité des choses. Parce qu'en fait, le truc au Liban et dans le monde arabe, c'est que les familles montrent une image à la société qui, la plupart du temps, est très différente de la réalité de l'intime. Parce qu'en fait, l'image est très importante, les valeurs de la famille sont très importantes au Moyen-Orient. Ceci dit, le cas de Doris et Andrea est très différent, parce que ce qui se passe dans l'intime, c'est la réalité qui se montre en société aussi. Doris est complètement supportive des choix, des décisions, du mode de vie d'Andrea, et elle ne le cache pas. Elle en est fière devant tout le monde.
Et c'est important de le montrer?
Oui, bien sûr, il faut montrer toutes les différentes réalités de la communauté.
Et c'est un cas isolé?
Pas vraiment un cas isolé, non. Un cas exceptionnel, oui. Un cas qui m'a marqué beaucoup plus que d'autres, mais pas du tout unique.
C'est dans quelle communauté religieuse que cela se passe?
Doris et Andrea sont des chrétiens arméniens de Beyrouth.
Merci.
Merci à vous.
C'est Beyrouth, une exposition à découvrir ou à revoir à l'Institut des Cultures Arabes à Paris jusqu'au dimanche 28 juillet. Orient Hebdo, mise en onde et réalisation Mathias Golchani. On se retrouve avec plaisir samedi prochain. Passez une bonne semaine à l'écoute de RFI. Dans un instant, le journal.